Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous et à toutes. Second épisode ce mardi de notre série sur les clichés eurosceptiques. Aujourd'hui, l'Europe affaiblit les souverainetés nationales. En Hongrie, Frédéric Lebel a rencontré un étudiant qui combat le discours nationaliste de Viktor Orban. Balint Mizetić est inscrit à l'Université d'Europe centrale, établissement menacé de fermeture par le gouvernement populiste. La TEU, financée par la fondation du milliardaire juif américain George Soros, est en effet présentée comme une menace pour la souveraineté hongroise.
C'est une université pas comme les autres, dans le centre de Budapest, un établissement d'exception, luxueux même, désormais en sursis. La CEU accueille 1400 étudiants, parmi les plus brillants d'Europe centrale, pour un enseignement en anglais. C'est là que Balint Mizetić termine son doctorat en sciences sociales.
C'est certainement la meilleure université de Hongrie, tant par le niveau de sa scolarité que par sa capacité à faire venir les meilleurs chercheurs, par la qualité de sa bibliothèque également, et parce qu'il y a peu d'élèves par classe. La CEU est très privilégiée. Pour les Hongrois, c'est important d'avoir ce type d'établissement à Budapest, parce qu'ils ne se sentent pas obligés de choisir entre des études de qualité et un départ à l'étranger. Donc, on a beaucoup de chance d'avoir cette université ici.
Pour des raisons politiques, l'Université d'Europe centrale est désormais dans le collimateur du gouvernement hongrois. Le Premier ministre Viktor Orban y voit une institution aux mains de l'étranger, plus précisément de George Soros, le milliardaire juif américain d'origine hongroise, est désormais le bouc émissaire des populistes. Son portrait s'affichait ces derniers mois dans tout Budapest. On l'accuse désormais de vouloir inonder la Hongrie de migrants.
Je pense que la grande majorité des Hongrois ne connaissaient pas Soros avant la campagne que le gouvernement a menée contre lui. Le gouvernement présente Soros comme un milliardaire étranger vicieux qui veut faire venir 1 million de migrants, soi-disant illégaux, en Europe chaque année et qui mettrait donc en péril la souveraineté nationale, mais aussi la soi-disant homogénéité ethnique de l'Europe, de la Hongrie et de la civilisation chrétienne occidentale. Mais à force de parler de Soros, de la CEU, même sans diaboliser Soros, cela occulte le débat sur le système de santé ou la crise du logement.
Attaquer l'Union européenne pour mieux passer sous silence les dissensions intérieures est aussi un des passe-temps favoris de l'équipe Orban et de son parti, le Fidesz. L'Europe qui voudrait imposer à la Hongrie un quota minimum de réfugiés, ce qu'elle refuse. Mais pour Balint, on assiste là à une manipulation et un faux débat.
Orban dépeint une Union européenne de science-fiction composée de hippies, extrêmement permissive, multiculturelle, sans frontières. Elle n'a jamais ressemblé à ça. Et les leaders européens ne la laisseront jamais ressembler à ça. C'est un débat qui, au fond, ne repose sur rien. L'Europe, c'est la forteresse Europe. Globalement, la position de Viktor Orban est partagée par un nombre croissant d'Européens. La différence, c'est qu'Orban se montre moins poli sur le sujet.
Farouchement anti-européen en parole, le gouvernement Fidesz est beaucoup moins critique lorsqu'il s'agit d'empocher les aides européennes. Elles représentent 3% du PIB, un record en Europe. Aujourd'hui, Bruxelles veut désormais lier les aides au respect des valeurs démocratiques et les plaintes pour détournement de fonds visant l'entourage de Viktor Orban commencent à devenir embarrassantes.
Le gouvernement hongrois reçoit beaucoup d'argent de l'Union européenne, mais je crois que c'est très irresponsable de la part de l'Union européenne de ne pas contrôler de plus près la façon dont ces fonds sont utilisés. Les contribuables allemands, français ou européens seraient à mon avis mécontents ou même en colère de savoir qu'ils financent d'une certaine manière l'enrichissement illégal d'oligarques proches du gouvernement, des oligarques qui ensuite se servent de cet argent pour acheter et ensuite fermer des journaux d'opposition ou ouvrir des médias xénophobes et de propagande. De fait, vous financez notre propre oppression.
You are actually financing our own oppression.
Enfin, pour clore cette spirale eurosceptique, le gouvernement hongrois reproche à Bruxelles d'imposer ses diktats, tout comme le faisait l'Union soviétique avant son éclatement. Un parallèle choquant, surtout lorsque la Hongrie commémore la révolte de 1956 contre Moscou, Balint Miletic.
I think the most outrageous thing though,
ce que le gouvernement a fait de plus choquant, en rapport avec ses commémorations, a été de vouloir faire croire que, tout comme les Hongrois avaient dû défendre leur souveraineté nationale contre l'Union soviétique en 1956, le gouvernement hongrois devait maintenant défendre sa souveraineté nationale contre l'afflux de migrants et contre l'Union européenne qui veut encourager ces derniers à venir en Hongrie. Plus de 200 000 personnes ont fui le pays avant et après la révolution. Ces personnes ont été accueillies en Autriche, mais aussi dans d'autres pays européens. Et donc ce discours est une insulte à la mémoire des réfugiés hongrois.
Hungarian refugees in 1956.
Une ultime manipulation de l'histoire qui ne semble pas choquer les électeurs du Fidesz qui ont reconduit Viktor Orban pour un quatrième mandat au printemps dernier.
À Budapest, le reportage de Frédéric Lebel. Les clichés eurosceptiques, c'est aussi un web documentaire à retrouver sur le site L'Europe et moi 2. RFI.fr.
I will learn Dutch. I will become a fluent Dutch speaker. I am developing a passion for Dutch.
Stel dat ik hier vanavond zou vertrekken zonder haar, dan spook ze zeven dagen in mijn mind.
Ils ont obtenu le statut de réfugiés aux Pays-Bas et pourtant c'est en Belgique qu'ils sont envoyés pour prendre des cours de langue et de culture néerlandaise. Un élu du sud des Pays-Bas n'a pas hésité à organiser ces cours, estimant que ceux proposés dans son pays sont loin de permettre une intégration optimale des réfugiés. Précision avec Antoine Moutot.
C'est à Maasmechelen, de l'autre côté de la frontière, à quelques kilomètres de sa commune, que la mairie de Steyn a décidé d'envoyer les nouveaux réfugiés prendre des cours de néerlandais. Des bus sont affrétés spécialement 4 fois par semaine. Près d'une cinquantaine de personnes suivent déjà un cursus de néerlandais deuxième langue à Maasmechelen. Première raison invoquée par la mairie, l'enseignement dispensé en Flandre est beaucoup plus efficace qu'aux Pays-Bas. Et surtout, les cours prépareraient mieux les nouveaux arrivants au marché du travail néerlandais. D'après la mairie, un cursus de langue de 7 semaines en Belgique permet d'acquérir les bases suffisantes pour pouvoir, par exemple, accéder à un premier emploi. Et surtout, second argument, ces cours coûtent 10 fois moins cher aux municipalités. Ils sont fortement subventionnés par le gouvernement flamand. L'adjoint au maire Eup Janssen juge d'ailleurs que l'État néerlandais devrait s'en inspirer. En réaction, le ministère néerlandais des Affaires sociales a admis que certains cours de néerlandais dispensés aux Pays-Bas n'étaient peut-être pas de très bonne qualité, mais cela ne concernerait qu'une petite partie des cursus. L'exemple de Steyn semble en tout cas déjà faire des émules. Le village de Schrinnen, dans le Limbourg, a annoncé vouloir faire de même. Seul petit problème, l'accent. Aux Pays-Bas, certains craignent que le néerlandais enseigné aux réfugiés à Maasmechelen soit imprégné de l'accent flamand. Certains mots sont différents aussi. En Belgique, un micro-ondes se dit « micro-rolf-oven » et « magnetron » aux Pays-Bas. Mais le directeur de l'école concernée se veut rassurant, précisant que l'établissement belge embauchait aussi des professeurs des Pays-Bas.
Elles attendent leur heure enfouie sous le sol et tuent bien après la fin des conflits. Les victimes de mines antipersonnelles sont de plus en plus nombreuses ces dernières années. Plus de 8600 personnes tuées ou blessées dans le monde en 2016, 2,5 fois de plus qu'en 2013. En Europe, de nombreux anciens terrains de guerre restent minés, Bosnie, Herzégovine et Croatie en tête. Mais c'est en Ukraine, où la guerre se poursuit, que la situation est désormais la plus préoccupante. Le Donbass, région frontalière avec la Russie à l'est du pays, est aujourd'hui l'une des 5 régions les plus minées au monde. Le reportage de Sébastien Gobert.
Son détecteur de métal activé, Tetena Nikiforova scrute avec patience le carré d'herbe devant elle. Puis elle se met à genoux et enfonce un bâton dans la terre, centimètre par centimètre. Selon les estimations humanitaires, un an de conflit dans une région donnée implique 10 ans d'efforts de déminage. Dans le Donbass, on s'oriente donc vers au moins 30-40 ans d'un travail sans relâche et risqué.
Je suis préparée à ça. Je suis née, je vis dans cette région et je veux que l'on puisse vivre ici normalement. On appelle ça du déminage humanitaire, pour que les gens, les enfants aillent se promener, se prélasser en toute sécurité sur la rive de cette rivière là-bas.
En avril, une famille de 4 personnes avait voulu profiter des beaux jours pour se détendre en bord de rivière. Leur voiture a explosé sur une mine. Chaque semaine, soldats, familles et enfants risquent leur vie à marcher dans la région. À Auzernay, Tetiana travaille pour l'ONG Hello Trust, active dans plus de 20 pays en guerre à travers le monde. La jeune femme a œuvré comme volontaire pendant quelques années du conflit. Elle voit les mines comme un des dangers les plus pernicieux aujourd'hui.
Ma famille avait été épargnée par les combats. Mais j'ai perdu mon parrain à cause d'une mine. Ça a été ma motivation principale pour travailler à déminer ma terre.
Hormis le coût humain de la présence des mines, c'est la vie et l'activité économique qui sont paralysées dans la région, même dans des endroits où il n'y a plus de combat. Natalia Virotina est la secrétaire du conseil municipal du village de Mirna Dolina.
Oui, ça nous est tombé dessus, les mines, et ça ne nous a jamais quittés. Les champs sont les endroits les plus dangereux, mais je sais que les habitants du village n'osent plus aller dans la forêt non plus. Pour ce qui est des agriculteurs, c'est une catastrophe. Beaucoup d'entre eux y ont perdu des machines ou ont arrêté leur activité.
Mirna Dolina est située dans la zone grise, une zone tampon à moins de 15 km de la ligne de front, sous administration militaire. Aussi, les équipes de démineurs n'y ont qu'un accès réduit. C'est l'une des nombreuses contraintes de l'entreprise de déminage dans la région. À Kramatorsk, la capitale de région, le chef de la mission de Hello Trust, Yuri Sharamanian, a travaillé dans plusieurs zones minées auparavant. Le cas ukrainien est pourtant très préoccupant.
En Ukraine, les mines causent beaucoup de pertes humaines en comparaison avec d'autres conflits. Les mines sont disposées de part et d'autre de la ligne de front, qui s'étire sur plus de 400 km. Et les gens passent très souvent d'un côté à l'autre. C'est une des raisons principales des accidents.
Dans le Donbass, où les lignes de front avaient beaucoup bougé en 2014, on trouve de tout. Des débris d'artillerie, des explosifs amateurs, des mines anti-chars et aussi des mines antipersonnelles, pourtant interdites par le traité d'Ottawa. Il est quasiment impossible de savoir qui a posé ces engins et tout aussi difficile d'en déterminer les emplacements. D'où l'importance de la prévention. L'ambassadeur de Suisse, Guillaume Scheuer, a fait le déplacement à Kramatorsk pour lancer un projet de sensibilisation au risque.
Pour apprendre aux élèves, à travers les enseignants, comment réagir, comment se comporter lorsqu'ils découvrent des mines. C'est un problème énorme actuellement en Ukraine, qui est un des pays les plus minés au monde, malheureusement. Il y a déjà plusieurs milliers de victimes liées à ces engins. Et non seulement c'est un coût énorme en termes de vie et de mort, en termes de drames familiaux, mais cela a aussi un impact important sur la phase de reconstruction. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on n'ose pas encore aller, et donc ça ralentit énormément tous les efforts de reconstruction, de redéveloppement économique.
Si les ONG et les autorités ukrainiennes sont déjà à pied d'œuvre, elles regrettent certains blocages, notamment dans la législation et les conditions d'importation des équipements de déminage. De même, les ONG n'ont pas le droit d'enlever ou faire exploser les engins qu'elles trouvent. Lorsque Tetiana Nikiforova déterre un de ses engins de mort, elle doit le laisser de côté pour attendre une équipe du ministère ukrainien des situations d'urgence. Cela peut retarder son travail de plusieurs jours. L'obstacle le plus important reste cependant la poursuite des hostilités. La ligne de front est loin d'être accessible aux équipes de démineurs, les duels d'artillerie sont quotidiens et meurtriers. Pour les populations civiles, la vie dans le Donbass est un danger de tous les jours.
Hambourg, première ville d'Allemagne à prendre des mesures contre les véhicules diesel. Depuis jeudi dernier, les voitures diesel les plus anciennes ainsi que les poids lourds sont interdits sur deux tronçons de route particulièrement pollués du centre-ville. Pour en parler avec nous, Nathalie Versieux à Berlin. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Alors pourquoi cette décision a-t-elle été prise, Nathalie ?
Ben, à cause des problèmes de la qualité de l'air, comme vous venez de le dire, Hambourg est l'une des villes les plus polluées d'Allemagne. Longtemps, les autorités allemandes en général sont restées inactives, même en cas de dépassement des normes européennes, ce qui est le cas dans la plupart des grandes villes du pays. Les choses ont changé avec la pression des associations, et notamment de Deutsche Umwelthilfe, une petite NGO très active qui a commencé à porter plainte contre les villes ne respectant pas les normes, les unes après les autres. Alors, les dépassements sont tels que seule la non-circulation des véhicules à moteur diesel plus anciens que la norme Euro 6 peut permettre de réellement baisser les émissions d'oxyde d'azote, notamment Munich, Stuttgart et Cologne sont les plus affectés. Hambourg est donc la première à passer à l'acte.
Est-ce que d'autres villes allemandes vont suivre l'exemple d'Hambourg ?
Certainement. Ce sont en fait 70 villes allemandes qui pourraient être contraintes d'adopter des restrictions à la circulation pour les moteurs diesel plus anciens que la norme Euro 6. Stuttgart, Düsseldorf, Munich sont sur le haut de la liste, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes, même si à chaque fois des véhicules techniques, les riverains, les artisans, les véhicules en livraison pourraient se voir accorder, comme à Hambourg, des exceptions.
Alors, quelle est la position du gouvernement allemand sur ce sujet ?
Berlin est vraiment le grand absent du débat. Le gouvernement fédéral accusé d'être trop proche des constructeurs automobiles, il y a 800 000 emplois en jeu dans le pays, refuse de légiférer. La technologie d'une diesel est née en Allemagne. Elle joue un rôle important dans l'industrie automobile nationale. La flotte mondiale de Daimler est exposée à 38% au diesel, 35% pour BMW et 26% pour Volkswagen. Des régions entières sont dépendantes de l'industrie automobile, ce qui explique l'inactivité du gouvernement. Les associations et les municipalités réclament de longue date l'instauration d'une plaquette bleue qui permettrait d'identifier les véhicules propres et donc d'effectuer des contrôles efficaces en cas d'interdiction. La police rappelle que sans cette fameuse plaquette bleue qui serait apposée sur le pare-brise, il est impossible de distinguer un véhicule Euro 5 d'un véhicule Euro 6 sans consulter les papiers du propriétaire.
Merci Nathalie Versieux à Berlin.
L'unico gesto che sapevano utilizzare era questo. Ehi, ciao! Ah, ciao, come stai? Bene, tu? Ci sei messo, ma che è sta cosa?
Parler avec les mains, une pratique courante en Europe du Sud, beaucoup moins en Grande-Bretagne. Selon une très sérieuse recherche universitaire de Rome 3, les Anglais utiliseraient en moyenne 9 signes non-verbaux pour communiquer, contre plus de 250 pour les Italiens. C'est logiquement un Sicilien, Luca Vullo, qui s'est chargé de leur enseigner cette autre langue des signes, Cécile Debarge.
Levez votre main droite, joignez votre pouce et votre index et tracez une ligne imaginaire de gauche à droite comme suspendue dans le vide. Puis, regardez la légère satisfaction que vous communique votre interlocuteur en esquissant un sourire. Ce geste veut simplement dire « c'est parfait ». Et de ces merveilleuses ressources non-verbales est née dans l'esprit de Luca Vullo une idée singulière, celle d'enseigner aux étrangers la langue des gestes italiens. Son aventure commence avec un documentaire intitulé « La voix du corps » sorti en 2012. À l'origine, réalisateur de documentaires, ce trentenaire sicilien décide de se plonger dans les codes non-verbaux de son île natale, la Sicile, connue pour être le bastion de la langue des gestes. Le documentaire plaît tellement que les invitations se multiplient. Parmi ses plus prestigieux employeurs, le Théâtre National de Londres, qui lui demande d'enseigner le langage des gestes à ses acteurs, afin de jouer une pièce du célèbre dramaturge sicilien Pirandello. Luca Vullo amuse et intrigue et petit à petit les plus prestigieuses universités l'invitent à enseigner la langue des gestes. Des États-Unis à l'Allemagne, de l'Australie à la France, ses cours font fureur, à tel point qu'il en fait un spectacle humoristique en décodant la signification de toutes les expressions non-verbales de la langue italienne, un spectacle qui porte le même nom que son documentaire « La voix du corps ».
Françoise Grelot a réalisé à la main et mise en onde cette édition. On se retrouve demain dès 17h40 temps universel et tout de suite sur votre téléphone portable grâce à l'appli Pure Radio.